France Inter, la radio des Européennes, le 6-9.
La revue de presse européenne, Claude Askolovitch, vous nous parlez d'un soupir.
Le soupir de soulagement qu'a osé Rasmus Karkov, qui suit Jonas Vingegaard pour le journal danois Berlingske, quand il a su hier à 19h50 que le double vainqueur du Tour de France, tombé au Pays Basque, s'en sortait avec une clavicule et des côtes cassées. Et notre confrère espère que Vingegaard pourra défendre son titre l'été prochain, le Tour de France 2023 ayant été, je le cite, un des plus palpitants de la mémoire humaine. Et ce matin, le vélo est un sujet européen. En France, l'équipe fait sa une sur Vingegaard, la grande peur, et traite en profondeur l'épidémie de chute. Ces cyclistes devenus trop rapides, leur vélo trop fort, les braquets hallucinants, ces oreilles qui créent, dit le coureur Romain Bardet, des coureurs robotisés en danger, et puis ces compteurs sur lesquels les champions observent leur puissance, mais les font ressembler, dit le manager Marc Madiot, à des automobilistes roulant avec le téléphone ouvert sur Waze. Le journal slovène Delo pourfend le cycliste qui s'en va à l'extrême. En Belgique, Le Soir en appelle au retour en arrière, supprimer le frein à disque qui est un appel au suicide collectif, rendre la bicyclette moins moderne, remettre des développements qui empêchent de rouler à 70 km/h, alourdir la machine. Mais peut-on freiner l'évolution ? La Libre Belgique, c'est son édito, nous dit que les champions cyclistes individualistes sont le reflet de notre société. Pour ma part de rêve, je suis un vieux monsieur, je suis allé relire sur le site de Berlingske un portrait de Vingegaard signé du même Rasmus Karkov, sorti l'été dernier. Karkov, c'est un de ses amoureux du vélo et des mots, ça n'a pas de frontières. Il racontait une vieille ascension du mont Ventoux où Vingegaard s'était révélé au monde, là où en 1967 l'anglais Simpson était mort épuisé. Karkov écrivait ceci de son compatriote. Dans la mythologie, on dirait qu'il s'est rencontré sur le mont Ventoux, la montagne nue que le philosophe français Roland Barthes appelait le dieu du mal à qui il faut sacrifier. Le dieu du mal, mes amis.
On parle aussi d'une commémoration.
Celle de la libération de Milan qui aura lieu le 25 avril et que raconte le Corriere della Sera et qui est rattrapé par le conflit de Gaza. Faut-il, au nom des vieilles souffrances, réclamer un cessez-le-feu pour que cessent les souffrances de la Palestine ? Faut-il aussi demander la libération des otages israéliens ? Le maire de Milan, l'écologiste Sala, veut qu'on ne parle de rien. Il y a mille autres occasions, dit-il, de parler de la tragédie que nous voyons, mais pas le 25 avril. J'ai une attitude religieuse sur cette date qui, pour moi, est avec la Saint-Ambroise, une des deux dates clés de ma ville. Il traverse l'Europe, ce conflit de Gaza. Il révèle aussi nos nuances. Die Zeit, journal allemand, publie une rencontre empathique avec des universitaires israéliens qui disent leur isolement après le 7 octobre. Le Monde, journal français, raconte les morts et les peurs des enfants palestiniens à Gaza. Le Monde raconte aussi comment, à Davos, paisible ville suisse où se croisent financiers, skieurs et jeunes juifs ultra-orthodoxes, car c'est aussi un lieu d'études talmudiques, monte l'antisémitisme, étrange commerçant que ce marchand de luge qui ne voulait plus louer ses engins à nos amis juifs, écrivait-il sur sa devanture. Les vernis craquent. Dans Libération, on raconte les jeunesses portugaises qui se donnent à un parti populiste nationaliste conservateur Chega, 50 ans après la révolution des œillets qui mit fin au fascisme, mais les adultes regrettent que les gamins ignorent l'histoire de leur pays. En Slovaquie, raconte Ouest France, on se demande si le candidat indépendant Korkok, favori demain du second tour de la présidentielle, pourra faire contrepoids au premier ministre populiste Fico, dont le journal Smer raconte les attaques contre les juges, reconnus. En France, le Figaro nous dit que les jeunes gens désertent le soutien à Emmanuel Macron. Le journal L'Opinion, lui, publie en une un dessin de CAQ où le jeune Jordan Bardella écoute grincer sa patronne Marine Le Pen. « Quant à ceux qui nous boycottent au prétexte qu'on fait peur, on s'occupera d'eux quand on sera au pouvoir. » Dans Marianne, vous lisez des néo-nazis qui s'improvisent gardiens de la vertu, piègent sur Internet des adultes amateurs de jeunes filles, les passent à tabac et les forcent à crier « Je suis une salope ! Vive la division aryenne française !» Décidément, nos vernis ont craqué.
Et vous parlez enfin d'un petit monde.
Comme une consolation, mes amis. Un petit monde tellement de chez nous, l'Académie française, où nous invite l'Express dans un article délicieux sur ces lettrés sordides qui cultivent complots et coups bas. Vous allez lire les aventures du fauteuil 16 de l'Académie, qui fut celui de Giscard d'Estaing, avant de Léopold Ségard-Senghor et encore avant de Charles Maurras, que des académiciens ont successivement promis à la navigatrice Isabelle Autessier, qui hélas rata sa lettre de candidature, puis à Laurent Fabius, qui hélas déplut à l'Élysée et à la famille Giscard d'Estaing, puis un psychiatre patron de Sainte-Anne, le professeur Gaillard, qui hélas ne serait pas sans défaut, et nos dignes académiciens sont en pleine cancel culture, zut c'est de l'anglais. Vous lirez quelques délices de langue signés François Sureau et Marc Lambron, je vous laisse goûter, ça les enfants, c'est à nous.
Merci Claude Askolovitch.